Merci. Ben, je voudrais tout d'abord te remercier chaleureusement d'avoir choisi ce thème dont nous sentons tous que c'est un thème de fond, avec bien sûr des points d'actualité, notamment récemment, mais c'est un thème de fond. Alors, je te remercie d'avoir choisi cela et de nous avoir invités. Je remercie aussi Gilbert Leroy, qui est le président du GEFACT. GEFACT, c'est un groupement d'échange d'expériences pour favoriser la compétitivité des entreprises. Et donc, merci à lui d'être là et d'avoir aussi invité des membres de son association. En parlant de santé au travail, je crois qu'il faut commencer par une interrogation banale, mais fondamentale. C'est où est-ce que ça commence, la santé, où est-ce que ça finit ? On a pris le métro ou la voiture, notre santé était en cause. Ici, est-ce qu'on est au travail ou pas ? La santé n'a pas de frontières pour la personne. Et donc, l'artifice, ou ce qui a paru une nécessité, de découper une partie de la santé pour dire c'est la santé au travail, ça va être une vraie difficulté qu'on va avoir tout au long de ce qu'on a, je crois, à examiner. Pour l'association AINF que je préside, la vocation d'origine était ce qu'on pourrait appeler les risques durs, c'est-à-dire ce qui préoccupait essentiellement nos entreprises, nos industries, l'accident, un peu la maladie, des choses qui intervenaient avec brutalité et auxquelles il fallait remédier. Et puis, nous sentons tous la montée de risques mous, c'est-à-dire la maladie professionnelle, le psychosocial. Et donc, notre association a décidé d'évoluer de la prise en compte des risques durs, ce qui était sa vocation initiale, vers une prise en compte de risques durs et de risques mous. Pour compléter sur cette association, elle a comme vocation à la fois de travailler à améliorer les choses dans le monde du travail, mais aussi de nouer des relations avec le monde académique, avec l'enseignement supérieur, et de nouer des relations avec la recherche, parce qu'on pense que sur tous ces thèmes de santé au travail, il y a à faire, non seulement pour le monde du travail sur lui-même, mais pour le monde académique et pour le monde de la recherche. Alors, il y a 4 ans, ou 3 ans, avec Anne-Marie Devèvre, on s'est dit qu'un cercle pourrait être une bonne chose, car on trouverait certainement des entreprises qui ont envie d'être préfigurantes dans les évolutions et qui se trouveraient bien d'en parler entre elles. Donc, le cercle entreprise et santé, c'est 15 entreprises, 2 organisations professionnelles, qui représentent finalement près de 700 000 emplois. Ce sont des grandes entreprises dont l'essentiel est en France, mais pour certaines, l'essentiel est hors de France. Et dès le début de nos travaux, la question de la portée internationale des réflexions a été un pôle d'intérêt important. Les membres de ce cercle, ils se trouvent être d'origine diversifiée dans les entreprises, ce qui correspond un petit peu d'ailleurs aux mutations qui se font avec des membres du cercle qui sont des directeurs de ressources humaines ou des directeurs de risque ou des médecins par la compétence, ou des directeurs santé, ou secrétaire général, ou chargé du développement durable, ou directeur du changement. Diversité d'appellation, qui correspond à la diversité des façons dont le problème est pris dans les entreprises, mais avec pour tous un grand engagement de leur direction générale. Et le fonctionnement de ce cercle a été un fonctionnement avec l'engagement personnel des présents, avec l'absence de langue de bois, avec l'envie de profiter de l'échange sans avoir envie d'imposer des conclusions. La finalité, c'est de faire du benchmark, des échanges. Et on a partagé quelques grandes convictions. D'abord que la santé est un élément important du lien social, et c'est le point sur lequel je reviendrai certainement en conclusion. C'est qu'il y a une nécessité de réfléchir sur un temps dans la durée. La santé est un problème à longue vue. Il y a une nécessité de développer une vision globale. Et enfin, il n'y a pas de réponse en kit. La conformité aux procédures ou à une partie des procédures n'est qu'une partie des solutions. Et enfin, décider d'être dans une approche modeste. On n'a pas envie d'imposer une vision trop communicante. C'est plutôt un travail interne dont chacun doit pouvoir profiter. Alors, je voudrais maintenant faire un bref rappel sur le cadre et sur les acteurs. Je voudrais ensuite, si vous voulez bien, demander à Anne-Marie Devèvre de me relayer en nous indiquant quelles sont les expériences et les avancées principales de nos entreprises dans le cercle, et puis enfin parler des dynamiques pour réinventer la santé au travail. Alors, le cadre et les acteurs. Ben, le cadre, il est marqué par les obligations des employeurs et aussi des salariés. L'employeur a une obligation de résultat, mais les salariés ont aussi une obligation de veiller à leur propre santé et à celle de leurs collègues. Et il y a là-dessus, bien sûr, des lois et une définition de la santé par l'OMS dont l'ampleur mérite qu'on le note bien. La santé, dit l'OMS, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ça consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et on voit là des choses sur lesquelles on va revenir, c'est la façon dont il faut positiver, l'action pour la santé. On voit apparaître la notion de bien-être et on voit bien apparaître les notions physiques, mentales et sociales. Alors, quels acteurs ? Ben, le premier acteur dont on parle pas beaucoup, pas souvent, ben, c'est la personne. La personne porteur de sa santé et grand acteur de sa santé. On l'oublie très souvent. Moi, je le remets un instant au moins au centre. Il a des particularités. Il n'est pas toujours demandeur de trop parler de sa santé. Tantôt, il veut en parler, tantôt, il considère que c'est son domaine privé. Quand, par exemple, on veut enregistrer les aptitudes ou on veut parler de dossiers médicaux, qui peuvent être des outils de progrès pour la santé, eh bien, il y a une réticence personnelle qu'il faut aussi, bien sûr, connaître. C'est aussi une personne qui est prête à souffrir pour du succès. Et donc, on condamne la souffrance, mais la souffrance, ça peut être aussi un des éléments du bien-être. Enfin, la personne nous en mêle la santé professionnelle et la santé publique, puisque je l'ai dit au début, on se promène avec sa santé sur soi, en vie privée ou au travail, et il y a des interconnexions qui fait que la vie privée peut retentir défavorablement sur la vie au travail, et la vie au travail peut retentir défavorablement sur la vie privée. Entre la personne, bien sûr, le personnage principal, c'est l'employeur. Bon, il a une responsabilité essentielle et il l'assure avec différentes méthodes, différentes organisations, les uns par extension de leur domaine qualité, santé, environnement, d'autres par une direction des risques, d'autres par une direction des ressources humaines, d'autres par une direction du développement durable. Diversité de prise en charge du problème qui peut correspondre soit à un état d'avancement différent de l'implication, soit à un état des lieux, métiers différents, circonstances différentes. Puis il y a des experts qui sont ceux de la sphère sécurité, ceux qui ont fait qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il y en ait le moins possible, et puis ceux de la sphère médicale. Ceux de la sphère du médical, il y a au centre le médecin du travail. La médecine du travail est l'objet de réformes un petit peu continuelles et jamais achevées depuis plusieurs années. Il y a d'ailleurs deux sortes de médecine du travail. Il y a les médecins du travail d'entreprise, et puis il y a les médecins du travail inter-entreprise, qui sont sous forme de centres de santé au travail. Les médecins du travail au total sont au nombre d'environ 7000. Et ils ont un problème d'évolution d'abord dans leur recrutement. La proportion de médecins du travail de plus de 50 ans est de 60%. Ils ont un problème de communication avec la médecine de ville. Ces deux domaines qui communiquent pas très bien. Nous avons entendu un homme politique, médecin d'origine, nous dire ben, « Moi, si un de mes patients vient me voir, moi, médecine de ville, je ne passerai pas le dossier au médecin du travail. » Difficulté de communication qui n'est pas forcément favorable à la santé, mais qui est un constat. Ils sont, les médecins du travail, très marqués par leur fonction d'examiner les aptitudes et de faire les dépistages. Ils ont un peu de mal à en sortir, ce que l'on essaie de faire en essayant de donner au centre de santé de travail une vision plus large, qui est une vision consistant à regarder les conditions de travail et à voir comment les améliorer. Cette évolution est en cours, mais elle a pour le moment un impact faible. Enfin, il y a des experts non médicaux qui sont dans la mouvance des centres de santé au travail. Et puis, il y a la représentation du personnel, pour laquelle le CHSCT, le comité d'hygiène et de sécurité au travail, est l'outil obligatoire dans toute entreprise de plus de 50 personnes. Donc c'est un lieu de discussion, de concertation, à première vue, idéal. Maintenant, dans le fonctionnement, L'expérience des entreprises est assez diverse. Pour certaines, le CHCT a un fonctionnement purement administratif et réglementaire. Pour d'autres, il s'occupe que de quotidien. Pour d'autres, ils sont champ de bataille idéologique. Et enfin, pour d'autres, tout va bien. Ils travaillent ouvertement sur ce qu'il faut fondamentalement améliorer avec la coopération de l'entreprise et du personnel. Et ce que disent les grandes entreprises, c'est qu'elles ont un souhait d'améliorer ce fonctionnement et d'améliorer la coordination entre la multiplicité des CHSCT qu'il y a dans les grandes entreprises. Une grande entreprise, elle peut en avoir 30 ou 40. Comment essayer de créer une impulsion coordonnée? C'est un de leurs soucis auxquels elles travaillent et que, j'espère, continuera à progresser. Enfin, pour terminer sur les acteurs, il y a des acteurs externes aux entreprises, une certaine impulsion mondiale, les pouvoirs publics, l'inspection du travail, la CRAM, les ARAC, les ministères, donc une mission d'impulsion, d'information et aussi, quelquefois, de sanctions. Alors aujourd'hui, les forces internes à l'entreprise, celles avec lesquelles il faut travailler pour voir comment changer, eh ben, ce sont des experts qui sont dans l'entreprise, les gens qui s'occupent de qualité, sécurité, environnement, de ressources humaines, les médecins du travail. Il y a les institutions représentatives du personnel, et puis il y a le management direct, depuis le directeur général jusqu'aux managers de proximité, sur lesquels il faudra revenir et dont on a parlé de plus en plus, parce qu'ils sont probablement l'une des clés essentielles, et pas toujours gardées en mémoire, de l'amélioration des conditions de travail et donc de la santé au travail. Alors je voudrais passer la parole maintenant quelques minutes à Anne-Marie Deveuve pour vous dire plus concrètement quelles sont les expériences et les avancées de ce travail en cercle.
Je vais prendre le micro et je ferai quand même très très attention de rester au pied de l'estrade et sur un tabouret comme il est prescrit en usage normal pour l'agent féminine. Pardon. Et donc voilà, donc je reste bien au pied. Voilà. Donc quels sont, je dirais pas le point essentiel sur les avancées des membres du cercle, mais quelles sont quelques expériences. Et je vais vous dire aussi comment on travaille à l'intérieur du cercle. On n'a pas 80 séances, on en a 30. En 3 ans, c'est pas mal. Donc vous voyez qu'on est quand même mené à un rythme qui est un peu rapide, puisque c'est une fois toutes les 6 semaines. Et je dirais qu'on a 3 sortes finalement de réunions. Il y a des réunions où on fait venir quelquefois des experts externes parce que on a besoin d'entendre et d'écouter ou la science ou la contradiction. C'est comme ça qu'on a rencontré d'ailleurs Bernard Salengro. On a fait venir des experts sur d'addiction en matière de questions judiciaires et juridiques aussi. Et puis, on fait entre nous de l'échange sans phare et sans reproche de ce qu'on fait, mais aussi de quelquefois des difficultés qui sont là. Je veux dire que l'intérêt de ce cercle, c'est aussi que les gens se disent les choses, et notamment sur une parenthèse sur les RPS. Je dois dire que d'aucuns nous disent, ben voilà, c'est pas parce qu'on a mis en place des observatoires ou un certain nombre de choses que les solutions globalement sont là et que c'est différent. Et ça, c'est vrai que c'est quelquefois pas facile de le dire dans des colloques parce qu'il y a des externes, mais quand les gens sont entre eux, quand on est entre soi, c'est aussi plus simple. Bon. Et puis on a un troisième truc qui est aussi de se battre pour savoir de quoi on parle et sur quoi on est légitime. Et je dirais que l'une des premières choses sur lesquelles on a eu à se battre, c'était finalement le périmètre de la santé sur lequel une entreprise ou un employeur, un monde du travail est légitime, c'est lequel ? Et c'était parmi nos premières séances, il y a 2-3 ans, je dirais que on s'est dit dans quel champ on joue. Il y a les prescriptions, les obligations de type réglementaire. D'un autre côté, une entreprise a des objectifs de productivité. En règle générale, à la base, la sécurité, voilà. Mais où est-ce qu'on va ? Et finalement, on a abouti à ce schéma un peu progressif et avec vous, hein, donc en se disant, ben voilà, certes, il y a la sécurité, il y a la santé du périmètre stricto sensu du travail, et puis il y a tout le reste, la santé hors travail, et là on a eu des débats, c'est est-ce qu'on est légitime à y aller ou pas, et comment est-ce qu'on se positionne, puisqu'on ne peut pas être en prescription et en obligation de ce côté-là. Et on a essayé de schématiser tout ça comme ça, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, sur sécurité, santé, au travail, il y a des bonnes pratiques professionnelles qui sont liées au poste de travail sur lequel on peut organiser, d'ailleurs, il y a des référentiels, des formations d'un certain côté prescrites. Et puis sur le reste, bien sûr, il y a des règles de vie qui sont des règles de vie en commun dans l'entreprise, et il y a des comportements hors travail sur lequel là on peut proposer de développer des compétences qu'on peut proposer mais qu'on ne peut pas imposer, c'est du ressort des compétences individuelles. Et voilà. Et finalement, c'est là où on a vu cet enchaînement où on allait de la prescription à l'incitation et d'un certain côté de ce qu'était la productivité en s'ouvrant sur ce qu'est la RSE. Sur les avancées, je dirais, moi je suis un petit peu sociologue, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion sur ce qui était les moteurs? Ben, je dirais que d'abord, il faut un moteur, effectivement. Et le plus souvent aussi, la caractéristique de ce cercle, on vous a cité des noms d'entreprises, mais je dirais qu'il faudrait presque plus citer des noms de personnes, parce qu'à chaque fois, c'est un engagement quelque part perso, bien sûr, dans le métier de la personne, mais qui souvent vient... Après, ben, comme je dirais un peu les passions ou les engagements militants qu'on peut avoir tout un chacun, après d'expériences personnelles. Je me souviens d'un notamment qui n'est pas là ce soir, qui me dit, ben, écoutez-moi, il était opérationnel. Hein, le jour où, c'était en 85, il était directeur général d'une filiale d'un groupe, j'ai eu un accident mortel avec tel type de truc, ben là, c'était plus possible. Et c'est là-dessus, il est devenu maintenant directeur santé de son groupe. Donc il faut... des gens qui impulsent, je pense que c'est... Voilà. Souvent un déclencheur qui, hélas, c'est quand même plutôt du côté de l'événement qui fait prendre conscience. Je dirais aussi, même si dans un monde d'entreprise, quelquefois, c'est pas dire ça, c'est que l'application réglementaire a aidé. Et là, il est clair que, par exemple, la prescription du document unique a été réellement... pour d'aucuns, une avancée réglementaire. Et moi, je vois un certain nombre d'entreprises qui utilisent finalement ce document unique pour faire vivre et d'un certain côté former et faire évoluer leur CHSCT. Autre chose...
Si jamais quelqu'un ne savait pas ce qu'est le document unique, comment pourriez-vous le définir en deux mots?
Eh bien, en le développant, excusez-moi, document unique d'évaluation des risques qui, en fait, prescrit à tout établissement, encore une fois, entreprise, mais aussi établissement public, d'apprécier sur ses grands métiers, sur chaque poste de travail, les différents risques qui sont occasionnés par là. Merci, mille pardons. Voilà. L'autre chose aussi qui a été le plan de prévention du stress, donc qui a été mis en place par le précédent ministre du Travail, ça a été perçu de façon très très différente par les entreprises, je dirais d'un certain côté, selon le degré presque de maturité où elles étaient ou non engagées dans leurs négociations. Je dirais que les gens qui n'avaient rien, ça a été un excellent accélérateur de prise de conscience et d'un certain côté de mise en place, quelquefois un peu rapide de choses, mais quand même. Pour d'autres, je dirais beaucoup d'autres, les échos qui nous sont venus, c'est qu'ils avaient depuis longtemps pas attendu ça pour mettre en place un certain nombre de processus, d'échanges, de construction en commun. Et d'un seul coup, moi, je veux dire que là, un certain nombre de RH et d'autres nous ont dit, mais d'un seul coup, on est tombé, je dirais pas dans une culture d'opposition, mais on était obligé de mettre ça au milieu de la table avec un objet de négo, et traditionnellement, quand on dit négo en France, c'est un peu un objet de conflit. Et voilà. Bon, mais néanmoins, ça a quand même fait avancer les choses, et je dirais que les choses avancent d'autant plus que le terrain est favorable. Et de ce côté-là, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'était le terrain favorable, en tout cas dans nos 15 entreprises? Je dirais que le premier truc, c'est que s'il y avait avant, et donc c'est forcément plus facile pour les industriels, une culture sécurité présente sur les risques durs, ça va mieux. Ça passe. L'autre chose aussi, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on évoque les questions des RPS, des stress ou autres, on dit dialogue social. Ok, dialogue social, mais c'est bien. Mais ce qui compte, c'est aussi le dialogue opérationnel entre les experts et le terrain. Avec le management des opérateurs, sur le fond, je dirais aussi bien sur les conditions de travail que sur le travail et son organisation. Ça, c'est déjà une condition qui est moins fréquemment remplie. Et puis l'autre chose aussi, c'est une question d'attitude. Et là, je dirais, la question, c'était intéressant aussi d'avoir dans notre cercle, on a des gens qui sont sur les risques, tout risque, aussi bien risque industriel que autre. Et ce qui est tout à fait important là, c'est effectivement d'avoir une attitude de responsabilité, mais pas de culpabilité. Parce que sinon, on voit un certain nombre d'événements, bah, que ce soit des presque accidents ou des presque problèmes, qui sont un peu mis sous le tapis. Encore une fois, pour éviter la mise en responsabilité. Donc là, il y a une dialectique de positionnement assez fin qu'il faut avoir de ce côté-là. Je reviens sur le crowbar qu'on a vu là tout à l'heure, parce que finalement, c'est bien des quatre dimensions des acteurs que viennent les avancées de nos cercles. Alors pardon, parce que je vais vous en citer juste quelques-uns, puis je vous m'arrêterai, parce qu'il y en a globalement beaucoup. Il y a un premier truc qui est, je vais m'occuper de ces experts-là. Et ça a l'air idiot, mais on avait d'un côté les médecins du travail, de l'autre côté les QSE, et un troisième les RH, et ces gens-là qui ne se parlaient pas forcément entre eux. Je dirais que l'un des grands succès qu'on a vu, ça a été par exemple Spi Batignol, qui a d'abord fait confiance aux médecins du travail, et là aussi c'est pas souvent le cas, et qui a réuni, qui a globalement fait parler l'ensemble. Et ils ont progressivement, mais sans se précipiter, construit un plan santé, réunissant d'abord tous les experts. Et là c'était le choix, c'est qu'on va travailler d'abord les experts, après on mettra les institutions représentatives du personnel, ensuite le management, les choses allant d'ailleurs dans l'autre sens. Bon. Autre truc aussi, on consolide divers aspects. Alors, il y avait d'un côté un bout de politique de handicap, un bout de politique de seniors, un observatoire de suivi des maladies professionnelles, un observatoire de voilà. Et le truc, ça a été quelqu'un qui prend la responsabilité d'un seul coup de santé, qui se structure et qui structure ça. C'était le cas, de, par exemple, de Veolia Propreté. Il y a d'autres choses, par exemple, c'est à des moments de restructuration, soit de... de scission, d'éclatement, de séparation, soit des moments de regroupement ou de fusion. Et à ce moment-là, à l'occasion d'un changement de structure et d'une nomination, se fait, alors tout dépend bien sûr de la personne, mais se fait une mise en place importante. C'est qu'a été par exemple le cas de RTE, et qui là, se fondant sur une culture de sécurité tout à fait importante, a mis l'accent à ce moment-là sur la santé. Autre point aussi qui était pour nous particulièrement important, on ne l'aurait pas cru au début, mais oui, c'est l'importance de la configuration internationale. Là, dans des cas de figure très divers. On a par exemple dans notre cercle des gens qui sont à 100% français et des gens qui sont 10% français, 90% à l'international. Et ça pose des questions qui sont tout à fait différentes. Je pense à GG Veritas, par exemple, qui, tout le monde bien sûr sait que GG Veritas fait de l'exploration sismique à l'international. Et en gros, quand vous recrutez des gens qui interviennent, là pour le coup, dans des milieux qui sont physiquement hostiles, il vous faut des critères d'aptitude qui sont bien particuliers. Donc c'est une façon, si vous voulez, de revivifier l'approche aptitude et l'approche santé. De la même façon, quand les gens sont loin, il est clair que le type de suivi qu'il peut y avoir demande impérativement qu'il y ait par exemple un dossier médical personnel très proche. Et les salariés sont demandeurs de ça. D'autres, il y a des thèmes lourds comme le vieillissement, la prévention du vieillissement qui a été prise en place. Voilà. Donc on pourrait vous en parler plein, mais je pense que je vais m'arrêter là et que je vais recéder la parole à mon président.
Merci beaucoup Anne-Marie. Encore quelques minutes pour vous parler de quelle dynamique pourrait inventer cet au travail. Je pars d'un état des lieux très succinct. Il n'y a pas lieu ni d'excès d'honneur ni d'indignité pour l'état dans lequel sont les choses. Pas d'excès d'honneur parce qu'il y a quand même en France 700 000 accidents avec arrêt de travail. Il y a quand même 55 000 par an. On est maintenant à 55 000 maladies professionnelles déclarées et là on était à 30 000 en 2000. Par contre, les accidents du travail déclarés, eux, ça plafonne, ça baisse un petit peu. Mais il y a des choses qui évoluent dans le bon sens. Les taux de fréquence qui sont un indicateur connu, c'était 44 en 2000, c'est 38 aujourd'hui. Et puis, relativisons en se rappelant qu'il y a à peu près 500 morts par an en France par accident du travail. C'est dramatique. Mais il y en a 5000 sur la route et 20 000 en accident domestique. Et là, on voit apparaître une notion qui ne fait pas beaucoup surface, mais qui est quand même vraie. C'est que le travail est un temps favorable, est un temps de sécurité, est un temps protecteur. Je ne vais pas en tirer la conclusion que ça suffit. Parce qu'il y a une revendication très forte vis-à-vis du monde organisé. Quand c'est un monde organisé, la demande sociétale est très forte et très exigeante. Je vais le dire avec une image un peu abusive. Il y a 5000 morts sur les routes, il y a peut-être à peu près autant de passagers kilomètres par les routes que par la SNCF. On subit les 5000 par la route. On ne supporterait pas les 5000 par la SNCF, c'est évident. Donc le monde organisé se doit. Et l'entreprise, les employeurs, ils sont les champions, normalement, du monde organisé. Ils se doivent de faire mieux. Alors, il y a une impulsion publique, il y a des plans de santé au travail. C'est une impulsion plutôt bonne et renforcée. Et le champ sur lequel on travaille a différentes évolutions. Il y a celle de l'international, dont on vient de parler. Il y a la mobilité. La mobilité des agents est une difficulté dans la gestion des problèmes. Il y a une évolution sociétale. Évolution sociétale qui veut, par exemple, qu'on demande aux employeurs aujourd'hui de s'occuper, en relais de l'action publique, de la grippe H1N1. On leur demande, en relais de l'action publique, de s'occuper des handicapés. Et puis, il y a un phénomène sociétal que je vais caractériser par un exemple. Je connais une entreprise du Nord-Pas-de-Calais, 800 personnes, c'est plutôt un emploi de gestion de bureau. Il n'y a rien qui ait vraiment changé, ni dans les dirigeants, ni dans la façon de gérer, ni dans le travail depuis 10 ans. Et le dirigeant de cette société dit, je suis sûr que ce n'était pas comme ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'ai 6 personnes qui sont en assistante psychologique. Le mot n'existait à peine autrefois. Aujourd'hui, assistante psychologique sur des sujets dont les gens ont des troubles, dont peu importe de savoir s'ils viennent de l'entreprise ou s'ils viennent d'ailleurs, mais les gens apportent et recherchent dans l'entreprise l'assistance psychologique à un trouble dont l'origine, au fond, n'est jamais bien connue et dont il n'aurait jamais eu l'idée de l'apporter dans l'entreprise. C'est-à-dire, même si le trouble était d'origine entreprise, ils emmenaient le problème chez eux, ils le gardaient chez eux. Et aujourd'hui, il y a une évolution sociétale forte à ce sujet-là. Il y a une évolution forte aussi qui tient au fait que la santé est à plus longue vue, parce qu'il y a longévité et parce qu'il y a des détections de plus en plus fines. Par exemple, on commence à se préoccuper des rayonnements sur les pilotes d'avion. Phénomène nouveau, parce que il faut regarder les choses dans le temps long. Une autre évolution forte, c'est la place du tertiaire. On a une imagerie populaire qui est de considérer que le travail, c'est la travée d'usine. En fait, le travail dans la travée d'usine, c'est 10 à 15% de l'emploi. 85% d'emploi, c'est le tertiaire, c'est le transport, c'est les bureaux. Et il y a des maladies donc propres qui ne sont peut-être pas assez encore vues propres à ce monde-là, alors qu'on pense souvent à un monde où ces maladies ne sont pas de ce type-là. C'était plutôt l'accident du travail. Il y a une montée aussi de la judiciarisation et de la médiatisation, ce qui fait que la santé au travail est aussi une affaire de juristes et de communicants. Enfin, pour les tendances pour l'action, je voudrais dire en conclusion deux, trois mots. Il y a une chose qui marche bien, c'est l'analyse des risques. C'est le document unique. Il y a une vigilance qui monte sur tous les risques. Il y a une nécessité de décrisper le débat. Les débats sont difficiles, souvent parce qu'ils se crispent. Ils se crispent autour de à qui est-ce de jouer. Est-ce que c'est de l'action publique? Est-ce que c'est de l'action d'entreprise? Et ils se crispent aussi parce que dans le choix entre est-ce que c'est des problèmes de comportement ou des problèmes d'organisation, il y a des pulsions fortes qui sont de la part, en particulier majoritairement de représentants du personnel, de chercher du côté organisation, et du côté de l'organisation, de chercher du côté comportement. Et là, il y a une crispation qu'il faut savoir dépasser pour travailler correctement. Et donc, les entreprises réexaminent leurs dispositifs et on progresse aussi en assumant une montée en compétences collectives. J'ai fini avec un mot de conclusion pour dire que ce à quoi je crois très, très fortement, c'est qu'on va continuer à progresser fortement si on conçoit le travail comme un temps positif pour la santé.
Merci.